Bienvenue sur cette nouvelle capsule d'information astronomique du Planétarium de Montréal pour le mois de février 2011. Les statistiques météo nous apprennent que dans nos régions, février est le mois le plus sec de l'année. Il ne faut pas s'en étonner. Les surfaces d'eau gelée atteignent maintenant leur étendue maximale, ce qui limite l'évaporation et l'apport d'humidité. Et lorsque de grandes masses d'air polaire descendent de l'Arctique, le ciel devient limpide et transparent. C'est le moment ou jamais de braver la nuit glaciale afin de découvrir les constellations d'hiver. En début de soirée, à cette période de l'année, le ciel est dominé au sud par les brillantes étoiles de l'hexagone d'hiver. Au cœur de cette immense région qui s'étend pratiquement de l'horizon au zénith, un groupe d'étoiles attire notre attention, la constellation d'Orion. Avec le chaudron de la Grande Ourse et le Lion, c'est sans doute l'un des astérismes ou dessins d'étoiles les plus reconnaissables. Ces sept étoiles principales sont si brillantes qu'elles percent aisément le voile de pollution lumineuse de la ville. Quatre d'entre elles occupent les coins d'un grand rectangle vertical. Les trois autres, au centre, tracent une courte diagonale inclinée vers la gauche. Ensemble, les sept étoiles d'Orion dessinent une sorte de grand sablier. Dans la tradition occidentale, Orion est un chasseur légendaire issu de la mythologie gréco-latine. Mais cet astérisme est si remarquable que de nombreuses civilisations ont inclus le même dessin d'étoiles dans leur propre ensemble de constellations, en l'interprétant toutefois à leur manière. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, par exemple, c'était Osiris, dieu des morts, qui règne sur l'au-delà. Dans l'astronomie traditionnelle chinoise, Orion correspond à l'astérisme nommé justement « trois étoiles ». C'est l'une des 28 maisons lunaires qui servait à marquer le passage de l'astre de la nuit à travers la voûte céleste. Orion était un chasseur, disions-nous. En effet, il affronte le taureau en colère qui fonce droit sur lui. Aldébaran, l'étoile qui figure l'œil du taureau, brille d'un éclat orangé. On retrouve aussi, aux côtés de notre chasseur, ses fidèles compagnons Sirius et Procyon, le grand et le petit chien. Et suspendu sous les trois étoiles de sa ceinture, l'épée d'Orion apparaît légèrement floue à l'œil nu, surtout sous un ciel bien noir comme à la campagne. Aux jumelles, cette impression de flou se confirme. Les quelques étoiles faibles qui marquent l'emplacement de l'épée semblent noyées dans un nuage lumineux. Mais c'est à travers l'oculaire d'un télescope que la grande nébuleuse d'Orion, connue aussi sous le nom de Messier 42, se révèle dans toute sa splendeur. Ce vaste nuage de gaz et de poussière, situé à 1500 années-lumière de nous, est un lieu où naissent des étoiles, une véritable pouponnière stellaire. Si Orion recèle des étoiles naissantes, on y retrouve au moins une étoile dont la vie s'achève. Bételgeuse, qui occupe le coin supérieur gauche de la constellation, est une supergéante rouge, 18 fois plus massive que notre Soleil, mais 1000 fois plus grande. Bételgeuse n'est âgée que d'une dizaine de millions d'années, contre 5 milliards pour le Soleil, mais ses jours sont comptés. Elle épuise son carburant nucléaire à une vitesse folle et finira en supernova au cours du prochain million d'années. Bételgeuse n'est située qu'à environ 600 années-lumière de la Terre. Nos lointains descendants seront donc aux premières loges pour un spectacle inouï. Examinons maintenant ce qui se passera du côté de la Lune et des planètes au cours des prochaines semaines. Jupiter est le premier astre à s'allumer après la tombée du jour. La brillante planète apparaît d'abord au sud-ouest, puis descend vers l'horizon ouest où elle disparaît peu après 20 heures. Il est encore temps de jeter un coup d'œil sur Jupiter à l'aide d'un télescope pour constater le retour graduel de sa bande nuageuse portée manquante l'année dernière. Faites-le au crépuscule pendant que la planète se trouve encore assez haut dans le ciel. Le croissant lunaire reposera à droite de Jupiter le soir du 6 février, une scène à contempler dans le ciel coloré du crépuscule, 30 à 45 minutes après le coucher du soleil. Aux jumelles, vous pourrez même admirer la lumière cendrée de la Lune. Quelques soirs plus tard, le 11 février, la Lune, maintenant au premier quartier, passera tout juste sous l'amas des Pléiades. Au crépuscule, les deux se trouvent bien haut au sud et à peine 1,5 degré les séparent. Mais remarquez comme la Lune s'éloigne de l'amas d'étoiles à mesure que la soirée avance, ce qui démontre la rapidité à laquelle notre satellite se déplace autour de la Terre. Après le coucher de Jupiter, il faut attendre encore 2 heures pour apercevoir Saturne. Lorsqu'Orion descend au sud-ouest, on retrouve la planète aux anneaux au-dessus de l'horizon sud-est. La lune gibbeuse décroissante passera dans son voisinage dans la nuit du 20 au 21. Signe certain que l'opposition de Saturne approche à grands pas, elle aura lieu le 4 avril, la planète se lève de plus en plus tôt en soirée. Au début de février, Saturne apparaît vers 23 heures et culmine au sud vers 4 heures du matin. Le tout survient 2 heures plus tôt, à la fin du mois. Il est d'ores et déjà possible d'effectuer des observations de qualité au télescope, mais les meilleures conditions sont encore à venir. On retrouve l'éclatante planète Vénus en fin de nuit et à l'aube. Même si son écart du Soleil est encore important, sa position sur l'horizon se détériore. Ainsi, l'étoile du matin se lève 3 heures avant le Soleil au début de février, mais à peine 2 heures à la fin du mois. Au télescope, la phase de Vénus change graduellement en février, passant de quartier à gibbeuse. Enfin, le croissant lunaire lui rendra visite le matin des 28 février et 1er mars, un rendez-vous à admirer dans les couleurs de l'aube vers 6 heures du matin. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres encore dans la section intitulée « Dans le ciel » du site web du Planétarium de Montréal au www.planétarium.montréal.qc.ca. Vous pouvez également joindre le Planétarium de Montréal par téléphone au 514-872-4530. Cette capsule est une production du Planétarium de Montréal. Texte, Marc Jobin. Prise de son, Mathieu Forcier. Webmestre, Marc Jobin. Ici Pierre Chastenay qui vous dit bonnes observations et à la prochaine.